Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal à la présentation Livin Mwinga.
Bonsoir et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Masisi de plus en plus asphyxié par le manque des besoins médicaux et humanitaires. L'alerte est lancée par le chef de mission de Médecins sans frontières, RDC, en ce moment où la situation sécuritaire est trouble dans ce coin du Nord Kivu et dans la région. Sport, Edingwe Mapima, alias Motonangenge, est mort. Le célèbre catcheur congolais qui drainait énormément du monde avant ce combat est décédé hier lundi au Maroc à l'âge de 73 ans. Témoignage de cet homme au style particulier dans ce journal. Notre invité, le chef de mission de Médecins sans frontières RDC, Stéphane Godibia, va nous décrire la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire dans la région de Masisi après les combats opposant le M23 au FRDC. Encore une fois, bonsoir à tous. Alerte au manque de plus en plus croissant des besoins médicaux et humanitaires au chef-lieu du territoire de Masisi. Ce cri d'alarme est lancé par le chef de mission de Médecins sans frontières en RDC en ce moment où la situation sécuritaire reste volatile dans la région, précisément au Nord Kivu. Et ce, en dépit d'une accalmie observée après des combats qui ont opposé il y a quelques jours les rebelles du M23 au FRDC appuyés par les Wazalendo dans cette région. Ces affrontements ont eu comme conséquence la dégradation de la situation humanitaire et sanitaire avec environ 90 blessés qui continuent à être pris en charge par les équipes de MSF à l'hôpital général de Masisi. Stéphane Godibia, chef de mission à MSF RDC, nous éclaire davantage au micro de Denise Loukesso.
Qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le point sécuritaire, que ce soit pour les acteurs humanitaires comme Médecins sans frontières, mais surtout pour la population. Ça a un impact directement sur la situation humanitaire et sanitaire, parce que pour pallier à cette incertitude, à la crainte que les combats génèrent, la population s'est déplacée. Des gens ont quitté les endroits où ils étaient, sur Katalé d'abord, et puis sur Masisi, et beaucoup se sont réfugiés dans la structure de l'hôpital que MSF supporte. On estime jusqu'à 10 000 personnes se sont rassemblées dans l'enceinte de l'hôpital qui n'est pas un énorme hôpital. L'espace est assez réduit. Donc, ça génère évidemment une tension sur un hôpital qui est toujours fonctionnel. Donc, ça crée évidemment une tension sur nos capacités à offrir des conditions d'hygiène minimales à cette population. Les latrines ont très vite débordé. L'accès à l'eau a été compliqué. On est obligé de gérer un peu cet afflux. Donc, tout ça est assez compliqué. Ça a un coût moral sur les équipes parce que avec 10 000 personnes dans l'hôpital, c'est très difficile d'opérer correctement. Mais les équipes sont vraiment restées mobilisées et sont parvenues à garantir la continuité de ces activités.
Situation confuse ce mardi dans l'agglomération de Ngungu, groupement Oufamandou 1er, territoire de Masisi. Nous sommes là au Nord Kivu. Dans la matinée, de violents combats y ont opposé l'armée congolaise à la coalition M23 AFC. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'autour de 11h heure locale, affirment nos sources contactées dans la zone. Alors que l'armée congolaise et les Wazalendo contrôlaient la cité de Ngungu, depuis une semaine, les rebelles du M23 venus en renfort les ont attaqués autour de 4 heures du matin. Certaines sources affirment que cette agglomération située à 15 km de Rubaya serait partagée depuis 8 heures heure locale. L'armée congolaise contrôlerait une partie alors que l'autre serait réoccupée par les rebelles, ce qui provoque une grande panique parmi les habitants contraints de fuir à nouveau après un bref retour dans leur domicile. Place à présent à ce drame qui frappe encore certains sites de déplacés dans le Nord Kivu. Plus de 100 nouveaux cas des malades atteints du VIH-SIDA identifiés dans les sites de déplacés autour de Goma. C'est le résultat d'une enquête réalisée dans ces sites en ce début d'année par le Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA PNMLS. Pour tenter de limiter la propagation de la maladie, le coordonnateur du PNMLS au Nord Kivu voudrait que les organisations humanitaires intègrent le fonds VIH-SIDA dans le paquet d'assistance en faveur des déplacés. Plus d'explications avec Rosalie Zawadi.
Si la question du VIH n'est pas vite intégrée dans les paquets des prises en charge humanitaires des déplacés, leur camp risque de devenir des foyers de propagation de cette maladie. C'est ce que craint les coordonnateurs du programme national multisectoriel des luttes contre le VIH-SIDA, PNMLS Nord-Kivu, Aubin Mungili, après quelques jours de dépistage volontaire dans 10 sites de déplacés autour de Goma.
On a eu 113 cas de VIH positifs dans les différents sites cumulés. Ça nous a troublés. Ici, il s'agit des nouveaux cas. Et nous avons eu aussi 480 ACE cas. Et ce qui nous fait encore davantage mal au cœur, ces personnes n'ont pas accès aux ARV. Avoir les taux élevés de personnes vivant avec le VIH dans les sites, ça rend les sites encore beaucoup plus vulnérables.
Il ajoute que si rien n'est fait dans l'urgence, à la fin de la guerre, c'est une population infectée qui regagnera les territoires. Notons que depuis le début de la crise, les humanitaires doivent opérer des choix difficiles sur les réponses urgentes à apporter aux besoins des déplacés selon les fonds limités qu'ils parviennent à mobiliser. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Un autre fait traumatisant, c'est un premier cas confirmé de monkeypox dans la zone de santé rurale d'Oicha. Il s'agit d'un nourrisson de 2 mois qui vit avec sa mère dans le site de déplacés de Louvangira, dans ce territoire de Beni au Nord Kivu. Selon des sources médicales, le cas a été suspecté le 5 janvier dernier quand des échantillons ont été prélevés pour les analyses. Celles-ci ont confirmé que l'enfant était atteint de la variole de singe. Deux autres cas suspects ont été également signalés dans le même site de déplacés. Placé. Archipé Koulekusa, l'infirmier supérieur chargé des activités préventives et surveillance épidémiologique, indique que toutes les dispositions ont été prises pour faire le suivi des contacts à risque et éviter ainsi la propagation de la maladie. Archipé Koulekusa est joint par Guylaine Kassassia.
La zone de santé vient de notifier un cas positif de monkeypox. Ce cas s'est retrouvé chez un enfant de 2 mois et curieusement, la famille s'était déplacée et qui reste dans des sites de déplacés. Notre crainte est que comme le cas se trouve là où les gens sont entassés, il y a risque que la propagation de la maladie soit grande. C'est pourquoi la zone de santé avec l'équipe de l'Espagne ces aides, ils ont jugé mieux d'abord faire les listages et les contacts à haut risque. L'entretemps, il y a eu des autres qui ont présenté les mêmes signes. Ils sont au CETAM de Oicha. Nous sommes en train de sensibiliser la population de la zone de santé, de se prévenir de cette maladie en se lavant régulièrement les mains. Nous sommes aussi en train de préconiser faire la vaccination, surtout les familles là où se trouveraient ces cas, d'être vacciné.
Suite de la grève des conducteurs des bus et taxibus à présent, bonne nouvelle quand même, c'est le retour à la normale ce matin dans certains coins de la ville de Kinshasa. Les bus, minibus et taxis sont à nouveau très visibles sur les artères après la rareté observée hier. C'est le cas à Kintambo. Toutefois, à l'est et dans une partie de l'ouest de la ville, la situation est encore compliquée ce mardi, nous dit Babel Pongo Massimango dans ce reportage rendu par Blaise Shindani.
S'il est aisé ce mardi de se déplacer dans des coins comme Kintambo, ce n'est pas le cas à Binza Pompa Jangaliema ou encore sur les tronçons allant de Limité à Pascal ou Kingasani. Ici, plusieurs véhicules de transport ne sont pas sortis. De nombreux Kinois habitant ces parties de la ville sont contraints de parcourir de longs trajets à pied pour rejoindre leur lieu de travail. Ceux qui en ont les moyens prennent la moto. Et là, les prix sont aussi revus à la hausse. Précisons qu'un moratoire de 10 jours est accordé aux associations de transporteurs en commun pour sensibiliser les acteurs de ces secteurs sur l'application de la nouvelle grille tarifaire. C'est ce qui ressort de la rencontre hier lundi à Kinshasa entre les ministres provinciaux des transports Bob Amisso avec des représentants de ces associations. Pendant cette période de courtoisie routière, les conducteurs sont exemptés de tout contrôle. Ils sont toutefois appelés à respecter les codes et les civismes routiers.
Restons dans la capitale, encore et encore des dégâts à Kinshasa après la pluie, celle d'hier lundi soir, a causé la mort de 3 personnes. Le drame a eu lieu dans la commune de Ngaliema. En effet, une mère et ses enfants et ses 2 enfants ont perdu la vie au quartier Moussey. Un mur s'est écroulé sur leur habitation. Dans d'autres coins de la ville, des inondations et des progressions des érosions sont aussi signalées. D'autres précisions avec vous, Babène Pongo Massimango.
Les victimes de Ngaliema sont une mère et ses 2 enfants. Le bourgmestre Dieu Merci Maïbandi Luanga parle aussi de dégâts matériels dans sa commune.
Au quartier Moussey, aux zones, une famille a perdu 3 membres. C'est maman avec 2 enfants. Il y a 1 enfant à l'hôpital. Sur l'avenue du tourisme, il y a eu les poulets debout, des pierres qui ont bloqué un peu la circulation au niveau de la Loue vers Delvaux. L'érosion continue à progresser. La pluie va affaiblir davantage le parcelle environnant de cette érosion du quartier Bangou, Louboudi et Kunda.
Les érosions ont aussi progressé à Mongafula. Son bourgmestre appelle à une intervention rapide sur la route Matadi et celle de Kimwenza, mais non au site touristique de Lola à Bonobo. Séverin Lumu.
Dans la localité Mayo École, nous avons 3 têtes d'érosion qui sont en train de progresser sur la route nationale numéro 1 vers Kimpem. Une partie de la chaussée a cédé, un véhicule est piégé. En cas de forte pluie, nous pourrions avoir des gaz inconsidérables. Il y a eu pour protéger la route nationale et la chaussée de Kimwenza.
Notez aussi ces inondations enregistrées dans plusieurs quartiers de la ville situés le long des canalisations et des rivières. Dans certains autres quartiers, les dégâts ont pu être limités grâce au curage, affirment les autorités communales.
Retard de la paie de salaire mensuel des enseignants par la Caritas Développement. Les professionnels de la CRE de la province éducationnelle Tchopo 2 expriment leur colère. Sur les 2 mois de retard, soit novembre et décembre, ils n'ont touché que le salaire du mois de décembre, précise-t-il. Selon eux, cette situation perturbe le déroulement normal des enseignements dans les écoles, car déclare leur président syndical, Freddy Kirongozi, les enseignants démotivés ne peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sollicitent ainsi leur délocalisation de la Caritas pour une autre agence de paiement, à l'instar d'autres écoles orientées vers les microfinances. Il est au micro de Jacques Moukonkolé.
Les collègues de la Tchopo 1, tous ont quitté la Caritas via l'IFOD. Ils sont allés dans des microfinances et ils ont touché la totalité de leur salaire de 2 mois. On ne comprend pas. Nous sommes dans une province administrative qui a 2 provinces éducationnelles, Tchopo 1, Tchopo 2. Comment il a plu aux autorités de laisser la Tchopo 2 entre la main de la Caritas qui fait souffrir les enseignants de la Tchopo 2 qui ne sont pas en possession de leur salaire, qui ne sont pas payés au moment opportun? On ne comprend pas pourquoi les autorité de la Tchopo nous a laissé comme ça, nous de la Tchopo 2. Alors, les enseignants de la Tchopo 2 plairent. Vous allez constater, il y a des grognes partout. Parfois, il n'y a pas des enseignements qui se donnent. Il n'y a pas des enseignements de qualité, étant donné que le chef de l'État est en train de plairer pour qu'il y ait une meilleure qualité de l'enseignement de nos enfants. Mais voilà maintenant, comment on peut arracher cela, étant donné que l'enseignant n'est pas bien payé. C'est pourquoi les enseignants demandent aux autorités provinciales de chercher une solution pour les enseignants de la Tchopo 2 qui soient payés à temps, comme tout autre enseignant de la République démocratique du Congo, chaque le 25.
Le ministre provincial en charge de l'éducation dit être conscient de cette situation. Simon Massimango attend recevoir leur mémorandum à ce sujet afin de voir comment les accompagner dans cette démarche. Sport enfin avec cette triste nouvelle, Eddy Nguema Pima alias Moto Nangenge est mort. Le célèbre catcheur congolais est décédé hier au Maroc à l'âge de 73 ans. Son décès survient quelques jours après son évacuation d'urgence vers ce pays pour des soins médicaux pris en charge par le gouvernement suite à une dégradation soudaine de son état de santé. Né à Kinshasa, Eddy Nguema a passé son enfance et sa jeunesse dans la commune de Matete avant de se lancer dans le catch dans les années 70. Il s'est fait un nom grâce à son style unique, comme le témoigne l'ancien catcheur Ponch Samson qui a combattu à ses côtés. Des propos recueillis par Kanish Mukongo et Kaki Akewa.
Eddy Nguema Moto Nangenge, un catcheur, un homme qui voulait tout oser, qui croyait tout faire. C'était le catcheur le plus populaire de la RDC, il faut le dire et le reconnaître aussi, qui voulait toujours être au-devant de la scène, qui ne voulait pas qu'on l'oublie. Et en plus de cela, il faisait tout pour gagner le combat. C'est-à-dire, quand j'ai dit il faisait tout, il pouvait tout se permettre. Dans ses débuts, Edingwe n'était pas un grand féticheur qu'on a connu vers la fin. On l'appelait l'homme de la force brutale. Et il n'avait pas cette coiffure-là. Il avait la tête tendue. Et on savait à lui, avec sa masse, et ce qu'il avait comme muscle. On pouvait dire qu'un homme fort, parce qu'il était l'homme de la force brutale. C'est peut-être vers les années 80 que Edingwe était devenu Motonangenge, dans le sens où vous connaissez, avec tout ce qui entraîne sa force, l'histoire de la magie, faire danser les gens, etc., etc.
Actualité internationale.
L'Ukraine a lancé dans la nuit de lundi à ce mardi une attaque majeure de drones et de missiles sur plusieurs régions russes. Cette attaque d'ampleur de drones ukrainiens a touché des sites énergétiques et industriels dans plusieurs régions de Russie, à des centaines de kilomètres de l'Ukraine, provoquant des incendies, ont annoncé les autorités locales. L'armée ukrainienne a affirmé de son côté avoir frappé une usine chimique produisant des explosifs pour l'armée russe dans la région frontalière russe de Bryansk.
L'invité.
Notre invité est le chef de mission des Médecins sans frontières en RDC, Stéphane Godibia, décrit la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire dans la région de Masisi après une dizaine de jours de combats opposant le M23 au FRDC. Il évoque également l'appui que son organisation apporte à l'hôpital général de Masisi pour la prise en charge des blessés liés à ces combats. Stéphane Godibia s'entretient ici avec Denise Loukesso.
Monsieur Stéphane Godibia, bonjour.
Bonjour à vous.
Aujourd'hui, quelle est la situation actuelle sur le terrain à Masisi Centre? La situation humanitaire, sanitaire et sécuritaire après 2 semaines pratiquement des affrontements entre les deux parties.
Je vais commencer par le sécuritaire. Donc, vous savez que la ville a changé 3 fois de main la semaine passée. Et évidemment, ça a généré un stress particulier et ça crée une certaine confusion. Qui contrôle quoi et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur le point sécuritaire. Ça a un impact directement sur la situation humanitaire et sanitaire. On est obligé de gérer un peu cet afflux de personnes. Il y a eu, je crois, autour de 90 blessés qui ont été admis à l'hôpital au cours de ces derniers 10 jours. Donc tout ça est assez compliqué.
Et comment MSF arrive à travailler dans une zone en plein combat comme ça?
Nous sommes présents à Masisi depuis 2007. Nous avons tissé avec les différents acteurs locaux, politiques, armés, de la société civile, des liens assez étroits. Et nous avons passé beaucoup de temps et d'énergie à côté de nos activités médicales à communiquer avec eux, informer ces différents acteurs quel était le mandat de Médecins Sans Frontières et quel était l'ambition de Médecins Sans Frontières, même en période de combat. Et l'ambition de Médecins Sans Frontières à Masisi, même en période de combat, c'est de rester opérationnel le plus longtemps possible. Parce que il y a bien sûr un afflux de blessés liés au combat, mais les autres besoins médicaux restent présents. Il y a eu un accouchement, je pense que c'était hier, un accouchement devant la porte de notre bureau, littéralement. Donc, les besoins médicaux sont toujours là. Donc, l'objectif, c'est de rester là le plus longtemps possible, en garantissant auprès de ces différents acteurs notre neutralité et notre impartialité. Et donc, nous sommes en contact permanent avec ces acteurs pour leur dire que vraiment, c'est très important pour la sécurité des populations, pour la sécurité du staff, que on garantisse l'inviolabilité de l'hôpital et des bases des ONG. Jusqu'à présent, je dois dire que dans ces derniers 10 jours, qui ont été des jours très tendus pour la population de Masisi, les structures médicales et les bases des organisations ont été respectées par les différents acteurs armés.
Voilà, monsieur Stéphane, vous parlez de l'afflux de blessés liés au combat. Et face à cet afflux, comment vous arrivez à gérer les blessés et les déplacés qui sont autour et au niveau de la base MSF?
L'hôpital a toujours été fonctionnel, donc que ce soit le staff du ministère de la Santé et de MSF, eux-mêmes ont cherché et ont trouvé refuge à l'hôpital ou à la base MSF. Et donc, ils sont mobilisés, mobilisables. Et donc, on a des équipes du ministère de la Santé accompagnées des équipes MSF qui sont restées opérationnelles, qui ont pu continuer à traiter les cas, y compris des opérations, pendant toute la durée des combats. L'hôpital est assez autosuffisant en eau et en électricité. Ça a un coût, évidemment, un coût moral sur les équipes, parce que avec 10 000 personnes dans l'hôpital, c'est très difficile d'opérer correctement. Mais Les équipes sont vraiment restées mobilisées et sont parvenues à garantir la continuité de ces activités. Ce que nous n'avons pas pu faire, madame, et je pense que c'est important de le souligner aux auditeurs, nos activités en dehors de Massissi. Il y a probablement des besoins liés aux déplacements récents de populations qui auront été ailleurs qu'à Massissi, ailleurs que dans l'hôpital et dans les bases MSF. Et pour l'instant, à cause de la situation tendue et confuse, nous n'avons pas été capables d'envoyer nos équipes pour essayer d'évaluer les besoins et de répondre à ces besoins en dehors du centre-ville de Massissi.
Voilà, pour terminer, Monsieur Stéphane Godibia, quels sont les vrais besoins actuels de ces populations qui se déplacent d'un moment à l'autre ?
Je pense que le besoin, c'est la paix et la stabilité. Je crois que cette instabilité, cette incertitude sur qui va contrôler la ville demain ou ce qui va se passer, ça génère un stress et un blocage, une incapacité à poursuivre une vie relativement normale et à répondre aux besoins de ces femmes et de ces enfants en priorité. Et le deuxième message, c'est le respect de cette inviolabilité et de la neutralité des structures médicales et des bases des ONG qui essayent d'y travailler.
Monsieur Stéphane Godibia, Radio Capi, vous remercie.
Merci à vous pour votre temps et votre écoute.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Alain Irung, à Junior Richard Kamunga et à Jean-Claude Siala.